Et à 7h34, voici la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Et à Hong Kong, le mouvement pro-démocratie est de retour, la répression policière aussi.
Oui, à tous ceux qui se demandaient si cette vague de contestation à Hong Kong pour de vraies libertés politiques et contre le joug de Pékin, cette révolte qui dure depuis une année entière et qui a fait descendre l'an dernier des millions de personnes dans les rues de la ville, si tout ça donc allait survivre à la crise sanitaire du coronavirus et à des semaines de mesures strictes de distanciation sociale, eh bien, la réponse a été donnée ce dimanche. En ce jour de fête des mères, là-bas, comme le décrit The South China Morning Post, les bars et les magasins rouvraient. Il y avait du monde dans les allées des galeries commerçantes qui constituent le centre-ville. Mais il y avait aussi des manifestants par centaines, des rassemblements comme on n'en avait plus vu depuis des mois, pacifiques, jeunes, pour dire « nous sommes toujours là ». Et dans ces centres commerciaux clinquants et si fiers de rouvrir leurs portes, il y avait aussi des policiers en très grand nombre, au moins 4000 agents anti-émeutes, d'après les informations du Morning Post, qui sont mobilisés de manière constante en prévision du premier anniversaire du mouvement le mois prochain, avec une stratégie de maintien de l'ordre qui semble avoir clairement évolué. Fini la simple intervention pour disperser les rassemblements au moment où ils se forment. Désormais, les policiers hongkongais appliquent la stratégie de la nasse et des arrestations massives, peut-être inspirées par le modèle français en la matière, avec pour objectif clairement assumé de frapper les esprits et de dissuader les manifestants. Ce qui a frappé également la presse locale ce dimanche, c'est le nombre impressionnant d'arrestations, plus de 230, et leur violence également, avec des manifestants molestés, aspergés de gaz au poivre à bout portant, etc. Le journal en ligne militant Hong Kong Free Press relaie aussi l'indignation des organisations de journalistes de Hong Kong qui dénoncent des actes de violence et d'intimidation perpétrés par la police comme jamais jusque-là contre les représentants de la presse, les journalistes venus couvrir les manifestations. Sans distinction, des passants, des élus au Parlement de la ville ont été molestés toujours par les forces de l'ordre. Un jour terrible pour Hong Kong, résume Benedict Rogers pour la Hong Kong Free Press, qui rappelle que l'avant-veille des députés pro-Pékin avaient tenté de s'emparer du perchoir par la force au gouvernement régional, au Parlement régional, en s'en prenant là encore très violemment aux membres de l'opposition pro-démocratie.
Et les tensions politiques sont donc déconfinées à Hong Kong et le pouvoir nommé par Pékin détourne les lois anti-Covid-19 pour tenter de museler le mouvement de protestation.
Oui, c'est ce dont l'accusent Yann Marlow et Yin Shang-Hong de l'agence américaine Bloomberg. À Hong Kong, les règles de distanciation sociale et l'interdiction des rassemblements de plus de 8 personnes, ces règles sont très souples pour laisser le peuple s'entasser dans des centres commerciaux ou des bars, mais elles sont très strictes par contre dès qu'il s'agit de tuer dans l'œuf toute velléité de contestation collective. Mais ce qui a changé entre l'avant et l'après-Covid, selon la spécialiste de la Chine Maya Wang, citée par le Guardian, c'est que Pékin et ses services policiers ont pris le temps de former mieux leurs collègues de Hong Kong à leur méthode radicale en matière de répression des manifestants. Ils ont donc fait évoluer la doctrine de maintien de l'ordre en la musclant considérablement et en violation de tous les cadres juridiques. Ils ont estimé que la police chinoise du continent pouvait désormais intervenir en renfort discret de celle de l'île. Il faut dire toujours avec Hélène Davidson du Guardian que plus on se rapproche des élections au Parlement de Hong Kong en septembre et plus le pouvoir régional dirigé par Carrie Lam va vouloir mater l'opposition pro-démocratie. Le mensuel américain The Atlantic enfin note la profonde injustice de la situation hongkongaise. Avec cette révolte menée par la population et en particulier par ces jeunes qui s'écrasent contre le mur des mesures anti-Covid, alors que c'est elle, par sa dynamique populaire bien en place depuis des mois, qui a pris en charge de manière déterminée et efficace la lutte contre l'épidémie. Si Hong Kong a réussi à contenir le virus, affirme Zeynep Toufeksi, ce n'est pas vraiment et pas du tout grâce à ses dirigeants incapables de gérer la crise car pris dans la propagande chinoise, mais c'est plutôt grâce aux citoyens et à leur capacité d'organisation spontanée. Quand l'État ne fait pas ce qu'il faut pour protéger sa population, celle-ci doit savoir se prendre en charge elle-même. C'est la leçon que nous donnent les Hongkongais, selon cet article de The Atlantic, une leçon qui résonne tout particulièrement, il faut bien le dire, dans l'Amérique actuelle.
Et aux États-Unis, justement, l'épidémie de Covid-19 frappe tout particulièrement les communautés autochtones et pousse les Sioux à organiser leur propre protection contre le virus.
Oui, dans l'État du Dakota du Sud, titre CNN sur son site internet, les Sioux refusent de lever les barrages routiers installés depuis quelques jours aux entrées de leur territoire. Des checkpoints ont été improvisés pour tester tous les occupants de voitures avant de les laisser passer, en prenant leur température, en leur faisant répondre aussi à un questionnaire médical rapide. C'est, disent les chefs tribaux, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour faire barrage au coronavirus avec leur relatif isolement. Les communautés Sioux ont pour le moment été plutôt épargnées et elles savent que si elles ne s'organisent pas elles-mêmes, leurs très faibles moyens médicaux ne leur permettront pas de lutter efficacement. Alors, cette initiative des barrages routiers, elle est illégale, hein, et la gouverneure du Sud Dakota, Christine Noem, a intimé aux Sioux l'ordre de lever leurs barrages, pour l'instant sans résultat. Elle porte désormais, cette gouverneure, l'affaire devant la justice, nous apprend le site d'info The Hill. Cette même gouverneure républicaine qui se veut intransigeante face aux autochtones, alors qu'elle fait partie de ces élus donc du Parti républicain qui n'ont soutenu que du bout des lèvres les mots d'ordre de confinement de la population. Mais cette histoire, elle fait surtout ressurgir les inégalités dont souffrent les descendants des Premières Nations américaines. Ils se rappellent bien que ce ne sont pas les batailles contre les colons blancs qui les ont le plus décimés au 19e siècle, mais bien les maladies importées par ces derniers. Le coronavirus a précipité chez les nations tribales une crise sociale d'une ampleur sans précédent. Ça, c'est ce qu'on lit dans le New York Times, avec la fermeture de centaines de casinos au cœur des réserves, qui a fait perdre une source essentielle de revenus et d'emplois. C'est comparable, selon un spécialiste de l'histoire des Premières Nations, aux conséquences qu'avait eu à la fin du 19e siècle l'extermination des bisons sur les tribus Sioux.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale. Il est 7h40 sur France Culture.